Et on va recevoir maintenant le docteur Catherine Doyen, qui est chef du service psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, à côté, à Sainte-Anne, et qui va pouvoir nous parler des métiers pour l'autisme et avec quelle collaboration.
Oui, eh bien merci, je remercie l'ADESME de m'avoir proposé de vous parler alors de cette thématique un peu étrange, entre guillemets, quel métier pour l'autisme et quelle collaboration. Je me suis initialement beaucoup questionnée sur de quoi allais-je vous parler. Alors j'ai fait des choix, vous m'en excuserez, j'ai fait des choix selon mon intérêt un peu personnel et puis des choix au regard aussi des personnes qui pouvaient être dans l'auditoire et qui pourraient être intéressées de façon diverse sur cette thématique. Alors je suis un médecin pédopsychiatre, je ne suis pas un médecin universitaire et je suis responsable d'un centre de diagnostic et d'évaluation de l'autisme au centre hospitalier Sainte-Anne et dans un service où il y a aussi une unité d'hospitalisation de répit pour les jeunes enfants avec autisme et troubles du comportement. Et c'est à ce titre-là que je vais parler aujourd'hui des métiers dans le champ de l'autisme. Alors, je dois vous dire que je ne suis pas une militante, mais en tout cas, moi, je suis pour la réhabilitation de la pédopsychiatrie dans le champ de l'autisme. Mais notre réhabilitation passera aussi par l'ouverture sur différents champs d'exercice et de partenariat auprès des personnes avec autisme et auprès des familles. Et c'est un peu ça dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui. Alors, pour organiser ma présentation, je me suis dit, je vais parler des métiers. Alors, les métiers, c'est simple. Quand on va actuellement dans nos réunions de réseau, quels qu'ils soient, il y a divers métiers. Donc, on connaît tous les métiers qui sont dans le champ de l'autisme. C'est vraiment pluriel. Je ne vais pas vous faire une énumération et un inventaire à la Prévert, mais je vais un peu cibler peut-être aussi sur les nouveaux métiers et les nouveaux intérêts que l'on peut avoir dans le champ de l'autisme au niveau professionnel. Les métiers, ils sont, à mon avis, structurés par tout ce que nous devons connaître, nous, les pédopsychiatres, autour de l'organisation du soin. Et quand je dis l'organisation du soin, c'est aussi en référence au cadre législatif, grâce à ce que nous apportent aussi des agences comme la NAP pour structurer notre organisation des soins. Et là, on a besoin de certains professionnels aussi dans le champ de l'autisme pour structurer nos soins. Les orientations théoriques, elles doivent bien sûr s'ouvrir. Il y a le cœur de métier, la psychiatrie infanto-juvénile, avec les orientations psychodynamiques. Mais le trouble autistique est lui-même un trouble dynamique et peut-être aussi psychodynamique. Il évolue au cours du temps et les enfants, adolescents et adultes avec autisme auront besoin à certains moments, de façon variée dans leur parcours, je dirais, de vie ou de santé mentale, de différentes aides et de différentes psychothérapies. Et je crois qu'il y a un panel large maintenant de psychothérapie ou de thérapie qu'il faut pouvoir offrir aux personnes et avec autisme. Et enfin, je vous parlerai un tout petit peu du point de vue des personnes avec autisme sur les métiers. Et les personnes avec autisme peuvent être des contributeurs dans le champ de l'autisme à certains métiers. Et nous devons les aider aussi à accéder à certains métiers. Et l'accès à l'emploi, c'est un des grands champs actuellement de l'interrogation, c'est vrai, des associations de familles. C'est un des grands champs du COPIL national, du quatrième plan pour l'autisme actuellement. Il y a un groupe de travail spécifique auquel j'ai participé au niveau du ministère, alors, éducation nationale, en lien avec le ministère de la santé, bien sûr, qui concerne l'inclusion scolaire. Donc ça, c'est mon champ, la pédopsychiatrie. Je travaille avec l'éducation nationale de façon régulière. Mais il y a aussi le champ de l'accès à l'emploi et comment faciliter l'accès à l'emploi, accompagner l'accès à l'emploi des personnes avec autisme. Mais vous voyez, c'est un petit peu vaste, donc je vais être très schématique et parfois, je vous dis, centré sur ce qui est peut-être plus mes intérêts ou mon champ d'exercice pratique. Donc, j'ai la chance d'être associée au Conseil scientifique de Santé Mentale France et depuis peu. Et dans ce conseil scientifique, j'ai rencontré des personnes alors, qui ont tout de suite posé des questions. Alors, les pédopsychiatres, qu'est-ce que vous faites pour les adolescents? Qu'est-ce que vous faites dans l'autisme? Il faut changer votre façon de communiquer, il faut changer vos points de vue. Enfin bref, il faut faire la révolution. Donc j'espère qu'avec Santé Mentale France, peut-être nous ferons la révolution pédopsychiatrique, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai été très attentive à ce que disaient les partenaires, enfin les intervenants de ce conseil de scientifique de santé mentale France, pardon, et notamment des propos de Jean-François Bauduret, qui a écrit un ouvrage sur alors on voit pas du tout, je m'excuse sur la petite vignette, mais qui est publié chez Duno, de l'esprit des lois aux transformations des pratiques. Et je dois dire que quand on est pédopsychiatre, il faut qu'on aille voir ce qui se passe chez l'autre et comment est organisé l'autre. Et là, l'autre, en l'occurrence, c'est le médico-social. Moi, j'ai eu besoin de comprendre comment fonctionnait le médico-social, quel était le cadre législatif, juridique, budgétaire du médico-social, pour savoir comment travailler au mieux avec eux. Parce que nous faisons des partenariats sanitaires médico-social, mais sans nous connaître vraiment. Et de fait, de toute façon, nous avons des formations différentes. Nous allons à des colloques différents, nous avons des budgets différents et ce n'est pas toujours facile de maintenir, de pérenniser ce partenariat en toute connaissance de cause. Alors, cet ouvrage, il a le mérite pour moi en tout cas de dire, bah oui, il y a des faiblesses actuellement dans le cadre législatif. La loi HPST, la loi de modernisation de janvier 2016, elle nous incite bien sûr au décloisonnement entre sanitaire, médico-social et social. Ce n'est pas encore parfait. Il manque des passerelles. Et alors, les passerelles, comment on les fait, les passerelles? On a vu les présentations hier. On en verra, je pense, tout à l'heure et cet après-midi. Il y a des passerelles, mais les passerelles, eh ben, c'est de l'humain. Et cet humain-là, il doit s'organiser selon des équipes, peut-être des équipes mobiles, où on verra d'autres exemples, j'imagine, là, de partenariat. Et ça, c'est de l'humain, c'est du temps, et donc c'est du temps, c'est de l'argent. Et l'argent, voilà, est issu du sanitaire ou du médico-social. Et il faut des personnes qui fassent office de passerelle, pas au sens mécanique du terme, mais qui soient vraiment, qui fassent du lien entre les deux secteurs, en tout cas sanitaire et médico-social, dans le champ de l'autisme. Il faut accompagner les personnes avec autisme, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, il faut accompagner les familles, et il faut bien sûr avoir des personnes ressources, voire des case managers. Alors c'est pas toujours bien entendu de dire il faut des case managers, donc on va dire des gestionnaires de cas. C'est pas encore très répandu, mais et bien sûr, accompagner une famille et un enfant, un adolescent, un adulte dans son parcours de vie dans le cadre de l'autisme, pour ceux qui sont les plus en difficulté, hein, et donc qui allient de la précarité psychosociale, des déficits intellectuels importants, et ben ça demande une personne qui va être, alors j'ai envie de dire guichet unique. Monsieur Pillet hier de l'UNAFAM disait il nous faudrait un guichet unique, et ben parfois il nous faudrait, enfin je pense qu'il faudrait pour les familles, une personne unique qui maîtrise un peu tous les tenants et aboutissants dans le champ de l'autisme, du sanitaire, du médico-social, du social et autres aussi, il y a le loisir, les logements, etc., qui concernent beaucoup les personnes avec autisme. Je vois pas très bien, je m'excuse. Il y a les formations. Alors, on vient de le dire, les formations. Les formations, c'est un enjeu. Ça coûte très cher. L'ordre sanitaire, se former, alors effectivement, à l'Early Start Denver Model, eh ben, ça a un coût exorbitant. Voilà, exorbitant. Et quand on est dans un service de psychiatrie infanto-juvénile, il faut faire des choix, il faut arbitrer. Soit on forme tout le monde à l'ESDM, voilà. Soit on forme une personne qui, dans 4 ans, s'en ira et puis ce sera terminé et puis il faut tout recommencer. Donc on en a parlé aussi hier, c'est la pérennité aussi des expériences partagées, mais aussi au sein des services, ces personnes dépendantes. Et les professionnels dans le champ de la santé tournent aussi. Hein, voilà, ils ont des évolutions de carrière, des développements personnels. Et quand on perd des ressources qui sont formées, il faut reformer et ça a un coût infini. Donc ça coûte vraiment très cher et moi je prône l'auto-formation. Une fois que nous avons acquis des expériences, les équipes, que ce soit les équipes universitaires, que ce soit des équipes de secteur psychiatrie infanto-juvénile, quand elles ont acquis une expérience parce qu'elles voient beaucoup d'enfants avec autisme ou de familles avec autisme ou d'adultes avec autisme, elles doivent se transmettre entre elles, bien sûr, leurs connaissances, et elles doivent aussi le transmettre au médico-social. Et je pense que les allers-retours formation médico-social vers le sanitaire, sanitaire vers le médico-social, ça peut être une des réponses à ce problème du coup coût de la formation. Alors, je vous ai parlé un peu de la NAP. Donc, il y a un guide sur le médico-social. Alors, je ne travaille pas dans le médico-social, mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut développer, il faut avoir une bonne capacité d'altérité et voir ce que fait autrui pour s'occuper d'enfants, de personnes avec autisme. Et ce schéma, vous voyez, il résume tout. On parle des métiers. Ben voilà, tous les métiers sont résumés dans cette diapositive. Alors, bien sûr, quand on est pédopsychiatre, au début, je ne voyais même pas où était la pédopsychiatrie. Elle est là. Voilà. Elle est toute petite, mais elle est représentative de ce qui se passe actuellement pour les personnes avec autisme. Il y a des interventions en lien avec le médico-social, avec le sanitaire, avec les centres de ressources autisme, bien entendu. Il y a des interventions auprès de l'école. Et je crois qu'il est important de penser aussi à l'inclusion scolaire des enfants avec autisme, ou l'inclusion aussi dans les lycées, et puis l'inclusion universitaire. Enfin, c'est un des axes du futur plan autisme, bien entendu. Et par exemple, l'intégration dans les écoles. Alors, bien sûr, les ARS ont développé les unités d'enseignement maternel, qui sont des formidables outils, dispositifs, bien sûr, d'accompagnement de la scolarité des petits-enfants avec autisme et qui ont des difficultés de comportement et de régulation comportementale importantes dans les maternelles. Et en couplé avec une structure médico-sociale, il y en a une par département. Une classe d'unité d'enseignement maternel par département pour répondre à la prévalence dont vous avez entendu parler des troubles du spectre autistique, c'est bien entendu insuffisant. Donc les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, là je m'en excuse, je parle de Paris, mais alors peut-être que nous avons beaucoup de moyens, mais parfois on a des moyens qui sont très morcelés, très dispersés, et finalement ça fait parfois un brouhaha et on s'entend plus les uns les autres, probablement. Et parfois j'envie, je dois dire, les personnes qui travaillent en province, parce que alors vous avez moins de moyens, mais ça crée peut-être plus de solidarité et plus de besoin de trouver des... Non ? Je me trompe ? Ah, bah dommage. Voilà. Ah, bah peut-être. Parfois, j'y pense parce que vous savez, quand il faut aller... Quand je dois aller faire des réunions de réseau, traverser tout Paris, que ça me prend une heure grâce au transport en commun, je préférerais aller en une heure. Alors, on ne peut pas encore aller en une heure à Bordeaux ou je ne sais où, mais voilà.
Pas loin.
Je m'excuse de cette digression. Et je reviens sur l'école. Voilà, les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile parisiens, non universitaires, ont développé, par exemple, des unités d'enseignement, alors que l'éducation nationale appelle externées. Je trouve que ce n'est pas très joli, mais enfin, ça veut dire que c'est en dehors des services de psychiatrie infanto-juvénile. Ce sont des dispositifs de scolarisation des enfants avec autisme qui ne pourraient pas être scolarisés soit en classe ordinaire avec AVS, auxiliaires de vie scolaire, soit en classe de type Ulysse, et qui ont qui cumulent, on va dire, les difficultés, mais qui sont scolarisés dans des écoles primaires ordinaires, avec une équipe qui est bipartite, avec une équipe sanitaire. Donc il y a un médecin coordonnateur, il y a un éducateur spécialisé issu du secteur de psychiatrie infanto-juvénile, et bien sûr l'équipe pédagogique dédiée par l'éducation nationale, avec des enseignants spécialisés qui se forment aussi, on en revient à la formation, et des AVS scolaires. Et sur Paris, il y a 5 classes de ce type qui ont été développées. Donc ça, c'est un exemple de partenariat sanitaire aussi éducation nationale qui me semble important à vous présenter. Je regarde l'heure parce que
Monsieur Guillon... Il vous reste 20 minutes. À peine.
Vous voyez, cette petite AVS, là, cette petite auxiliaire de vie scolaire qui va accompagner l'enfant, en fait, moi, ce que je trouve drôle là, c'est qu'elle est dans une voiture, et quand on sait la complexité que c'est d'avoir des transports, alors sanitaires, n'en parlons plus, mais des capacités de transport pour faire accompagner les enfants d'un lieu à l'autre, de l'école, au centre de jour, à l'hôpital, chez l'orthophoniste, enfin... ça devient vraiment ingérable. Alors, je ne sais pas comment c'est en province, mais à Paris, le problème des transports et de faciliter la vie des enfants et adolescents avec autisme pour rejoindre leurs différents lieux de prise en charge, je dirais, et pour soulager la vie des familles, parce que les familles travaillent, elles ne peuvent pas passer leur temps à accompagner les enfants d'un point à l'autre. Vous savez qu'il y a eu un rapport du CESE du Conseil économique et social, si je ne me trompe pas, récent, qui a montré que quand même le trouble autistique pour les familles, alors je pense que ce n'est pas spécifique au trouble autistique, était un facteur de paupérisation pour les familles, un facteur d'aggravation de la pauvreté pour les mères qui se retrouvaient en situation monoparentale et qui s'appauvrissaient grandement. Enfin, voilà. Donc tout ça, ce sont des dimensions. Et vous voyez, le transport des personnes avec autisme ou des personnes avec des troubles psychiatriques, je pense qu'on peut élargir de toute façon. Ça peut être un métier important et à développer. Et ça coûte cher, c'est vrai, mais il faut le faire. Donc je vous ai parlé un peu des accompagnants et des gestionnaires de cas. Là, j'ai mis en vignette un rapport qui avait été fait par Jean-Yves Barrère sur justement l'accompagnement, avoir des référents parcours pour les personnes, enfin les enfants, adolescents souffrant de handicap, hein, pas spécialement d'autisme, et que effectivement ça c'est vraiment important, c'est l'idée d'avoir une personne, un interlocuteur qui simplifie la vie et peut-être aussi des professionnels. Et puis dans la formation, et ben il y a toutes les expériences transversales et que nous devons partager. Et là j'ai mis une vignette issue du CRAIF, du Centre Ressources Autisme Île-de-France. Alors, vous savez qu'on a un fonctionnement particulier à Paris. Il y a un Centre Ressources Autisme Île-de-France et il y a 7 ou 8 centres de diagnostic et d'évaluation. Et le CRAIF est censé nous coordonner. Alors, aller coordonner cette équipe qui peuvent être parfois différentes. Et déjà, il faut qu'on y aille. Alors, vous voyez, il faut qu'on aille voir le CRAIF. Donc, on se déplace. 1 heure de déplacement, on revient. 1 heure de réunion, 1 heure de retour. Donc, ça coûte aussi de l'argent. En tout cas, cette vignette, elle est là pour dire que nous pouvons aussi nous appuyer sur les familles pour transmettre l'expérience d'une famille à l'autre. Probablement, et au sein des équipes aussi, et entendre la voix des familles dans leur expérience de vie avec un enfant ou un adolescent autiste, et puis leur recours, quels sont leurs recours et leurs ressources, c'est extrêmement important. Donc moi, je pense que il faut développer le aller vers, et que tous les métiers qui vont vers, c'est-à-dire aller vers les familles, aller parfois à leur domicile avec leur accord pour faire des interventions de quelque nature que ce soit, y compris des interventions précoces, probablement. Pourquoi ne pas faire du Denver à domicile? Je ne sais pas si le professeur Poinceau, vous pensez que c'est possible. Mais aller vers aussi pour le médico-social et puis aller vers les structures d'éducation nationale, les structures médico-sociales qui sont en difficulté avec certains de ces enfants. Enfin, tout ce qui est du registre de l'équipe mobile me semble actuellement, et qui regroupe bien sûr des professionnels divers et variés, mais l'ensemble des professionnels. Il faut qu'il y ait des équipes mobiles territoriales qui regroupent sanitaires, médico-sociales, éducation nationale probablement, qui puissent se rendre d'un point à l'autre. Alors, c'est probablement une utopie, mais en tout cas, ça semble actuellement un modèle très intéressant. Après ce cadre un peu spécifique, je vais vous parler des orientations théoriques, les élargir. Nous avons nos pratiques de psychothérapie qui sont, c'est vrai, variables et parfois différenciées d'un CMP à l'autre. Alors, on peut se dire que quand même, il y a un facteur d'inéquité, parce que selon le CMP où la famille va consulter, elle aura une offre de soins, en tout cas dans le champ de l'autisme, qui pourra être très différente d'un CMP à l'autre. On peut se poser la question, est-ce qu'il faut revoir le fonctionnement et faire des chartes de fonctionnement du CMP? Alors, il y a des chartes de fonctionnement qui existent en termes organisationnels, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait des chartes un peu de mise à disposition de certaines pratiques, je ne sais pas, mais je pose la question. En tout cas, nous devons, nous, pédopsychiatres, pour faire notre évolution, il me semble, dans notre pratique actuelle de psychothérapeute, il faut intégrer les neurosciences, intégrer les pratiques avancées, je vais en parler un petit peu, intégrer les nouvelles technologies, c'est un peu mon truc, et intégrer les sciences de l'implémentation ou de la mise en œuvre. C'est-à-dire que la psychiatrie et aussi les pédopsychiatres dans le champ de l'autisme, nous avons besoin de guides et de conseils, alors pour nous organiser, mais après pour évaluer aussi les processus thérapeutiques que nous mettons en place. On veut développer une certaine forme de prise en charge, et ben évaluons-la, et certains centres je vais vous en parler, notamment à Versailles, un centre de preuve qui existe. Ces équipes sont aussi censées épauler, on va dire, la psychiatrie infantojuvénile probablement pour développer ces programmes. Alors, les neurosciences, donc là, je vais faire brève. Je vous ai dit que moi, je voulais réhabiliter la psychiatrie infanto-juvénile. J'ai dit réhabiliter, c'est pas pour rien, c'est que je pense que tout ce qui a trait à, on l'a dit, l'autisme est un trouble du neurodéveloppement. Le cerveau a une formidable plasticité cérébrale et il n'y a pas d'âge où tout se joue. Nous apprenons toute notre vie, enfin ça j'ai appris ça, que la plasticité cérébrale existe tout au long de la vie. On peut faire des apprentissages jusqu'à 70 ans et plus. Mais en tout cas, la période de l'enfance est propice à un maximum de plasticité cérébrale. Oui, le cerveau est engagé dans les troubles autistiques. Le professeur Poinceau nous en a parlé un petit peu avec l'imagerie fonctionnelle et puis l'imagerie morphologique. En tout cas, les approches en remédiation cognitive qui visent à compenser ou à développer certaines défaillances dans le champ de l'autisme, comme, comme le champ des fonctions exécutives, c'est-à-dire la planification, la mémorisation, la flexibilité mentale, la mémorisation aussi, et ben la remédiation cognitive dans le champ de l'autisme pour l'enfant et l'adolescent existe. Je vous ai mis une vignette sur le C3RP. Alors là, je m'excuse, je suis obligée d'être parisienne. Hein. C'est le centre référent de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive qui se trouve à Sainte-Agne. Il y en a un autre à Lyon qui est coordonné par le professeur Nicolas Franck. En tout cas, au C3RP, on essaie de développer une branche. Alors bien sûr, on s'intéresse à l'autisme, on s'intéresse aussi aux enfants et aux adolescents, et moi particulièrement dans le service, voilà, parce que c'est un de mes centres d'intérêt, j'ai souhaité développer un programme qui est en lien avec l'intérêt des personnes avec autisme, mais aussi des jeunes, c'est-à-dire un programme informatisé, c'est le programme NEAR, c'est Neuropsychological Educational Approach for Remediation, c'est le professeur Medalia de New York qui a développé pour les adultes schizophrènes ces programmes, et on l'a adapté pour les enfants. Ce sont des programmes qui réunissent en groupe des adolescents. Alors, on ne met pas que des adolescents, des préadolescents avec autisme dans ce groupe-là. Il y a aussi des adolescents qui ont des troubles attentionnels ou des troubles des apprentissages. Ce sont des programmes informatisés. C'est le logiciel Presco, je n'ai pas le temps de vous le présenter, mais qui permet sous une forme ludique d'entraîner certaines compétences. C'est un outil, hein, c'est en complément de toutes les autres approches. On ne peut pas dire que la remédiation se substitue à tout le reste. C'est un outil complémentaire. Sa preuve reste probablement à faire en termes d'efficacité. En tout cas, on sait que dans le champ de la schizophrénie, ça a amélioré la qualité de vie des personnes. Et en tout cas, pour l'expérience que nous en avons maintenant depuis un an dans le CMP dont j'ai la responsabilité, nous avons l'impression, en tout cas, que ça a aussi restauré l'estime de soi de ces jeunes collégiens qui étaient en difficulté. Ça reste à évaluer, ça reste à démontrer, parce que c'est bien beau de dire on a l'impression que ça marche, mais il faut le montrer. Intégrer les pratiques avancées, je vais un petit peu vite, mais c'est donner aux professionnels de la psychiatrie infanto-juvénile qui travaillent avec nous un statut, je dirais, grâce à une formation consolidée, et je pense aux infirmiers, aux infirmières, leur donner des responsabilités qui sont plus avancées, c'est le cas de le dire, que ce qu'elles ont peut-être actuellement dans nos services. Et j'en veux pour preuve qu'effectivement, il y a des infirmières qui peuvent coordonner certains, à mon avis, projets thérapeutiques pour les enfants, les adolescents. On a besoin de ces ressources-là, mais ça peut être aussi en pratique avancée destinée aux autres paramédicaux, les orthophonistes. Alors, les orthophonistes, il n'y en a plus à l'hôpital. Donc, de toute façon, elles ne viennent pas travailler à l'hôpital. Elles sont sous-payées. Voilà. Et elles ont des contraintes qui sont incroyablement importantes quand elles sont dans des cabinets. Donc, malheureusement, là, il y a une crise sur l'orthophonie, alors que nous en avons besoin, on l'a dit, hein, voilà, pour que les personnes avec les enfants avec autisme apprennent le macathon, apprennent le PEX. Ce n'est pas que du ressort de l'orthophonie, mais néanmoins, quand même, ce sont les professionnels de la communication. Donc voilà, les pratiques avancées pourraient aussi concerner les orthophonistes, voire les psychomotriciens. Excusez-moi, je regarde l'heure.
7 minutes.
Ah, ça va. Ah, finalement. Alors, intégrer les nouvelles technologies. Alors, on a parlé hier un tout petit peu de la télémédecine. Quelque part, alors là, peut-être que je vais en faire sursauter quelques-uns, mais peut-être qu'effectivement, en tout cas dans le champ de l'autisme, on va devoir intégrer toutes les approches et la télémédecine, la téléconsultation et la téléexpertise. Alors, c'est vrai que là, grâce à l'ARS Île-de-France, on porte un projet qui s'appelle Prométhée, programme médical de télémédecine pour les enfants avec TED. On porte ce projet qui vise à faire des évaluations complémentaires médicales. J'insiste sur le médical parce qu'on fait des évaluations, bien sûr, psychiatriques de ces enfants. Et ces enfants sont des enfants en structure médico-sociale. Donc, nous sommes un centre de diagnostic, on va dire, de l'autisme et en partenariat avec 5 structures médico-sociales de l'Île-de-France, nous avons organisé des téléconsultations et de la télé-expertise. Voilà. Et nous avons, en tout cas moi j'ai validé le concept clinique, dirons-nous, qu'on peut faire une évaluation clinique d'un enfant par visioconférence. Voilà, ça n'exclut pas et c'est impératif de revoir après l'enfant, bien sûr en face à face, parce qu'on ne peut pas tout faire. Une fois de plus, c'est comme la remédiation cognitive, c'est un outil dans un dispositif plus large pour les personnes avec autisme. Et en tout cas, la téléconsultation, il me semble, ça peut être un outil d'avenir pour aussi favoriser les dépistages et les repérages précoces. Alors, c'est une tâche ardue. Et je dois dire que quand on a développé le programme, on s'est associé à 5 structures médico-sociales. Et tout simplement, il y en a avec qui nous n'avons pas pu travailler. Pourquoi ? Parce que leur réseau Internet était insuffisant et qu'elles ne l'avaient pas. Et que le temps qu'elles aient les financements pour l'avoir, ça a pris 2 ans. Et que le programme était commencé et que voilà, l'ARS nous demandait des comptes et que malheureusement, on n'a pas pu en inclure certains. Néanmoins, moi, je pense que ça a une vraie validité et qu'on peut vraiment utiliser cet outil dans le futur, peut-être plus à titre de télé-expertise. C'est ce que fait l'équipe de Barthélémy Durand dans l'Essonne. Vous savez qu'ils ont un centre de soins somatiques. On a beaucoup parlé, on a parlé peut-être pas assez des soins somatiques. En tout cas, hier, on en parlait en disant qu'il faut aussi un intérêt pour les soins somatiques dans le champ de l'autisme. Et à Barthélémy Durand, ils ont développé toute une activité de télé-expertise. Donc là, c'est juste de médecin à médecin. Et on va dire que ce sont des échanges de mails sécurisés. Hein, parce que, bien sûr, c'est tout le problème de la confidentialité pour ces projets qui est à respecter. Et donc, voilà, ce sont des innovations, je pense, qui peuvent être précieuses. Mais alors, ça aussi, ça prend du temps, hein, de maîtriser l'outil, d'être formé. C'est vraiment très chronophage. Voilà, ça, c'est juste pour dire on peut utiliser, en tout cas, en plus, l'évaluation avec des outils standardisés, c'est-à-dire validés par la recherche dans l'évaluation de l'autisme, comme une échelle d'évaluation d'intensité des symptômes autistiques. L'échelle de Vineland, qui est une échelle d'adaptation des enfants et adolescents, mais aussi adultes, qu'on peut utiliser dans le cadre de l'autisme. Et on peut utiliser ces outils standardisés par téléconsultation. Il n'y a pas que moi qui le dis, il y a des publications internationales qui le disent. Et il y a même une équipe, l'auteur c'est Paramento, qui a montré qu'on pouvait utiliser l'ADOS. Alors bien sûr, pas dans sa partie verbale pour les sujets non-verbales, mais on pouvait appliquer le module ADOS d'évaluation de l'autisme par téléconsultation. Donc je passe un peu vite sur les nouvelles technologies. Les sciences de l'implémentation, je vous ai dit, c'est, à mon avis, basé sur l'evidence-based medicine ou la médecine par la preuve. On a besoin de la médecine par la preuve aussi, de toute façon, pour développer des projets de recherche. Et je vous ai mis là, effectivement, le rapport, alors qui n'est pas dans le champ de l'autisme, mais qui a été produit par le centre de preuve de Versailles pour la schizophrénie. Mais je pense que pour l'autisme, on pourrait avoir le même type d'approche. Et ça conforte et ça aide les équipes à développer des programmes thérapeutiques, quelle que soit l'orientation, je dirais, des équipes. Donc je vais passer un petit peu. On peut évaluer le coût. Alors nous, en France, on ne sait pas le faire. Hein, en tout cas, pour les personnes avec autisme. Enfin, excusez-moi, j'ai changé de mon dernier chapitre. Les personnes avec autisme, on peut les accompagner pour trouver un métier. Et puis, elles aussi, elles peuvent rechercher des métiers. Et donc, j'ai juste mis cette référence-là. C'est comment on évalue le coût de la recherche accompagnée d'emploi pour les autistes. Ça a un coût. Et au début, cette étude montre bien que c'est plus cher d'accompagner de façon spécialisée les personnes avec autisme pour trouver un emploi que de les accompagner en routine, je dirais. On le voit sur le premier encadré. Hein, ça coûte 5000 livres. Alors, ce sont des livres, hein, ce n'est pas des euros versus 2000 livres. Donc au début, ça coûte plus cher, mais 8 ans après, eh ben, ça coûte moins cher. Et 8 ans après, toujours, eh ben, il y a plus d'emplois. Les personnes avec autisme qui ont bénéficié d'accompagnements spécifiques pour accéder à un emploi avec bien sûr des stratégies d'aide à l'emploi, à l'embauche, etc., à la socialisation, à l'acquisition de routines, eh ben, ces personnes avec autisme sont plus souvent employées. 136 semaines, vous voyez, par... 636 semaines d'emploi au total versus 102 quand ils n'ont bénéficié d'un accompagnement en routine, je dirais, comme on fait dans les services peut-être de psychiatrie adulte ou autre dans les pays anglo-saxons. Et pour finir, je donnerai le point de vue d'une personne avec autisme sur les métiers. Quels sont les métiers ? Donc Joseph Chovanec a proposé un rapport au gouvernement sur les métiers qui pourraient être destiné aux personnes avec autisme. Il a mis en avant 10 métiers. Donc je vous ai mis la liste, je ne sais pas si vous voyez exactement, mais je vous invite à lire brièvement le rapport. Il a mis en numéro 1 les métiers liés à l'armée et ou aux forces de l'ordre. Alors qu'on se dit, tiens, pourquoi en numéro 1 ? D'ailleurs, il l'explique dans son rapport. Et il dit, dans l'armée israélienne, par exemple, alors c'est un exemple un peu particulier, mais en tout cas, l'armée israélienne est un organisateur social dans la vie là-bas. Et en tout cas, l'armée israélienne est une de celles qui intègre systématiquement les personnes avec autisme dans les métiers de l'armée. Alors, bien sûr, c'est ciblé dans les métiers, mais ils sont particulièrement compétents et intéressants dans la surveillance des cartes satellites ou du repérage par les drones. Donc, il y a des champs d'activité comme ça auxquels on ne pense pas. Et c'est pour ça que je l'ai mis quand même, parce que je trouvais ça intéressant à entendre. J'ai presque fini.
Oui, ce serait bien.
Et c'est la dernière. Et voilà. Et donc, il décline tous les métiers qui pourraient être intéressants. De toute façon, ce rapport est en ligne, vous pouvez le regarder. Et il parle aussi des métiers liés au secteur de l'autisme. N'oublions pas que les personnes avec autisme peuvent elles-mêmes être impliquées dans la prise en charge, l'accompagnement et la formation pour les personnes avec autisme. Au total, et je finis, enfin, vous voyez, c'est très lapidaire. Il faut former, il faut accompagner, il faut innover, il faut évaluer. Former, on l'a dit, il va falloir faire quand même revoir nos copies, parce que ça a un tel coût que former tout le monde, c'est impossible. Donc, formons-nous les uns les autres, je dirais. Il faut accompagner, parce que c'est tous les services que nous apporterons et qui faciliteront la vie des familles avec un enfant, un adolescent ou un adulte autiste qui facilitent leur vie au quotidien, eh ben, ce sera important. Et innover, évaluer, ça, c'est à la charge des universitaires, voilà, qui vont faire de la recherche, je pense, et qui vont nous aider à valider que certaines nouvelles stratégies thérapeutiques complémentaires pour l'autisme sont intéressantes et peut-être ont un coût, en tout cas très certainement en termes de qualité de vie pour ces personnes-là. Voilà.
Merci Madame Doyen pour cette présentation. Merci.